Belgique.
Bonjour, en quelques 50 minutes, nous allons parler du temps qui passe, à moins que ce soit nous qui passions, du temps qui passe donc et que l'on peut saisir avec peine, ce qui n'a pas empêché les hommes de chercher à l'appréhender et de le diviser en époques avec l'ambition folle de le maîtriser. Dans son dernier essai en date, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, François Hartog, notre invité, a un objectif, je le cite, « nous transporter vers le tout début du christianisme et même sensiblement avant, pour saisir quelle révolution dans le temps a apporté la petite secte apocalyptique qui s'est séparée du judaïsme. Une révolution justement dans la texture du temps par l'instauration d'un présent inédit. Pourquoi partir de si loin, se demande François Hartog, parce que ce temps nouveau a marqué durablement peut-être même à jamais le temps de l'Occident, parce que le temps moderne est à tous les sens du terme sorti du temps chrétien, il en vient et il l'a quitté. Ainsi, entre passé, présent et futur, nous vous proposons un nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez télécharger sur le site de la radio et sur votre moteur de recherche préféré afin de l'écouter en balado-diffusion. Vous pouvez aussi bien sûr vous y abonner. Bonjour François Hartog.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. C'est la quatrième émission que nous faisons ensemble. Nous avons parlé avec vous déjà du temps, de l'histoire, de Renan également, notamment au travers de vos derniers livres ces dernières années. Vous êtes historien, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Grèce antique et spécialiste des formes historiques du rapport au temps, des catégories du temps. Et votre livre « Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps » publié au Seuil en 2003, fait autorité. Qu'entendez-vous, François Hartog, par le terme « régime d'historicité » ? C'est très important de replacer cela dans son contexte pour bien comprendre votre démarche avec ce livre aujourd'hui.
Oui, alors « régime d'historicité », en effet, il faut partir, utiliser cette notion pour entrer dans le livre Chronos lui-même, qui met en œuvre cette notion de régime d'historicité que j'avais essayé de proposer, de formuler, de travailler dans le livre qui porte ce titre, régime d'historicité, auquel vous avez fait allusion. Et par régime d'historicité, j'entends les modalités selon lesquelles se trouvent articulées les catégories du passé, du présent et du futur. Il est bien évident que selon que vous mettez en avant la catégorie du passé comme étant la catégorie prépondérante ou la catégorie du futur comme étant la catégorie prépondérante, l'ordre du temps qui en découle n'est pas le même. Si je prends deux grands exemples historiques, mettre l'accent sur le passé, c'est dire non pas qu'on ne fait jamais que répéter le passé, c'est dire que quand on veut comprendre le monde dans lequel on se trouve, quand on veut agir dans le monde dans lequel on se trouve, dans son propre présent, on commence par se tourner vers le passé pour y chercher des exemples, des références, et on mesure ainsi, avec plus de précision, en quoi le présent peut être soit modelé sur ce passé, donc c'est toute la grande problématique qui a traversé le monde occidental de l'imitation du passé, soit, et c'est au fond le même mouvement, en quoi ça ne colle pas, en quoi il y a des écarts. Et du même coup, si vous repérez des écarts, vous savez mieux quel est le présent, en quoi il se différencie du passé. Et donc dans ce glissement, vous avez au fond toute la marge de l'histoire. Et si vous mettez l'accent sur le futur, la catégorie du futur, alors c'est le futur qui devient la catégorie rectrice. Et en quelque façon, le futur éclaire le passé. Ce qui veut dire que, si je prends l'exemple de l'histoire des constructions nationales, ça veut dire que la nation est le but, la finalité de l'histoire, et que c'est cette nation réussie, accomplie, construite, élaborée, qui va vous servir à interroger le passé et à comprendre comment, peu à peu, s'est mise en marche cette histoire de la nation. et présentisme, puisque c'est quand même ce terme-là que j'ai essayé de proposer dans le livre Régime d'historicité, présentisme parce que il m'a semblé, là, sur ce point, je suis pas, évidemment pas le seul, il m'a semblé que nos 40, maintenant presque 50 dernières années, dans le monde occidental, d'abord, avaient été marquées par un progressif effacement du futur. C'est-à-dire que le futur avait perdu justement cette force d'illumination, cette force, cet appel, ce désir hein, de futur, cette marche vers le futur conçu comme progrès, et que le présent, en quelque manière, avait pris la place, et qu'on était dans un moment, dans des décennies, où le passé n'était plus une option, le futur ne l'était plus non plus, et ne restait plus que le présent, ce que j'ai appelé le présentisme, c'est-à-dire un présent qui devient, au fond, la seule catégorie qui, elle-même, d'une certaine manière, cannibalise à la fois le passé et le futur.
C'est en quelque sorte, François Hartog, un repli sur soi, le présentisme.
Oui, c'est un
repli. Une sorte d'écroulement du temps.
Oui, c'est à la limite. Bon, évidemment, ce présentisme, il a de multiples facteurs qui ont conduit à cela. Mais ce présentisme, il a été renforcé de manière absolument incroyable par les révolutions technologiques. Bon, Internet, la révolution de l'information a mis dans nos sociétés au premier plan l'instantanéité, l'immédiateté. Bon. Et ça, c'est du présentisme. Bon, l'économie des médias, avant même Internet, tendait dans cette direction-là, hein, puisque il faut être le premier à annoncer quelque chose, et la meilleure façon d'être le premier, c'est au fond de créer l'événement. Donc, on a cette espèce de course sur le mode de l'accélération qui fait disparaître la durée et le notre monde avec, prenons un exemple d'un objet technologique que tout le monde possède, ou presque tout le monde aujourd'hui, un téléphone portable. Bon, plus personne n'a de montre bracelet, surtout pas les jeunes gens, enfin qui maintenant ne sont plus forcément tout jeunes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que du point de vue du rapport au temps, de la perception du temps, de l'expérience du temps, avoir une montre bracelet, donc archaïque, c'est mesurer le chemin, l'aiguille qui tourne, et ça vous donne la durée. Votre téléphone portable, il vous donne le temps instantané.
Alors François Hartog, vous notez que vivre pour les humains a toujours consisté à faire l'expérience du temps, donc de s'intéresser soit au présent, au passé, au futur ou à l'ensemble. Et vous, vous dites, et là on entre dans votre travail plus précisément, vous dites que c'est le passage qui m'intéresse. Le passage entre ces différentes périodes. Ou ces régimes d'historicité.
Oui, c'est ça. Ce qui m'importe, c'est de voir les moments où les constructions entrent en crise. Bon, alors, c'est évidemment, si on se place du point de vue d'une histoire politique, les grands moments où ces expériences du temps entrent en crise, ben évidemment, ce sont la Révolution. La Révolution de 1789, ça a été un moment où, justement, ce rapport au passé qui relève de ce que j'ai appelé évidemment l'ancien régime d'historicité, c'est-à-dire justement où le passé était la catégorie dominante, la monarchie héréditaire, c'est exactement l'incarnation, au sens propre, de ce rapport au temps. Quand vous passez à la Révolution, c'est le futur qui devient la catégorie dominante, et ce moment d'entre-deux est extrêmement alors douloureux, dangereux, ou même fait couler du sang, mais du point de vue de la réflexion sur les transformations de l'expérience du temps, ce sont des moments privilégiés. Bon, tous les moments de crise. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, la crise du Covid, c'est aussi un moment de crise dans le temps, du rapport au temps, qui peut nous apprendre un certain nombre de choses.
Alors, dans ce livre, vous vous intéressez particulièrement au temps chrétien, mais vous revenez quand même sur ce temps des Grecs, auparavant, avant ce temps des chrétiens. Vous parlez aussi du temps du progrès. Vous avez parlé de la Révolution à l'instant, de l'an 1, par exemple, l'apparition de la République en 1792, et de cette remise en question de cette notion du progrès, avec peut-être le présentisme, et cette nouvelle période que l'on qualifie d'anthropocène.
Oui. Alors ça, c'est on a tout l'arc. Si
c'est ça,
veut,
c'est hein, l'arc général.
L'arc complet. Alors, au fond, ma question a toujours été, depuis le régime d'historicité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon. non pas par
Mais vous faites de longs détours par le passé.
Non pas par trumpisme, présentisme, mais au contraire pour essayer de ne pas être pris dans le présentisme. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il faut faire de longs, à mon avis, c'est intéressant de faire de longs détours. Et le temps chrétien, et vous l'avez rappelé en commençant, ce temps formateur qui a marqué l'Occident jusqu'à l'époque moderne, et probablement au-delà encore, où on a si je le dis en trois mots, justement, qui sont des concepts grecs. C'est ça l'important. C'est que pour dire le temps, pour traduire le temps, les traducteurs de la Bible, en grec, à Alexandrie, ou à partir du 3e siècle avant notre ère, les traducteurs ont mobilisé trois concepts grecs.
Alors, il y a Chronos, le plus connu.
Le plus connu, le plus familier.
L'insaisissable.
Oui, mais l'ensemble est insaisissable. Enfin, ces trois concepts, c'est une manière d'essayer de le saisir. Bon, alors Chronos, c'est le temps qui coule, le temps ordinaire, le temps de la vie, le temps aussi des révolutions des astres dans le ciel. Enfin, c'est ce temps-là. Et puis, le deuxième concept, c'est Kairos. Kairos, qui est un concept alors qui a été théorisé par les Grecs eux-mêmes. Ils ont construit le couple Chronos-Kairos. Chronos, donc, c'est le temps qui s'écoule, le temps ordinaire. Et puis Kairos, c'est l'instant, le moment décisif, l'opportunité à saisir.
La rupture aussi, non?
Oui, il y a un côté rupture. Ouais, ouais. Mais et au fond, l'action réussie, une action réussie pour les Grecs anciens, c'est savoir combiner Chronos et Kairos. Et l'homme politique ou le général, c'est celui qui voit le kairos, qui le saisit et qui peut, de cette manière-là, inscrire une action dans le temps. Bon. Et puis, troisième concept, krisis, le jugement. Le jugement, alors, vous direz, le jugement, c'est pas un concept temporel. Si, parce que, justement, qu'est-ce que c'est que le jugement? Même du point de vue étymologique, krisis en grec, ça renvoie au verbe, à un verbe qui signifie couper. Bon, le jugement, c'est ce qui crée un avant et un après. Il y a avant le jugement, il y a après le jugement, il y a le moment du jugement. Bon, et krisis, c'est aussi un concept grec qui a été très travaillé par les médecins, par la médecine hippocratique, et qui a donné pour nous le concept de crise, ou moderne. Mais pour les Grecs, krisis, c'était, quand vous observiez le cours d'une maladie, c'était de repérer les jours critiques. Et ça, le bon médecin doit pouvoir savoir, doit pouvoir reconnaître les jours critiques, justement pour s'assurer une prise sur la maladie. Pour dire, le troisième jour, il va se passer telle chose, et si le malade passe ces trois jours, alors il a une chance de s'en tirer, ou au contraire, si ces trois jours marquent une aggravation, alors il ne s'en sortira pas. Donc ce sont ces trois concepts.
Alors Chronos, Kairos
et Krisis. Krisis. Bon. Quand ils sont repris par les traducteurs de la Bible, et puis après par les chrétiens, et je vais directement sauter aux chrétiens, ils sont bien là, mais ils sont transformés, bien évidemment. Chronos reste Chronos, le temps ordinaire. Mais Kairos est, au fond, acquiert encore un statut supérieur, puisque Kairos, pour les premiers chrétiens, va en venir à signifier l'incarnation. Bon, le Christ, le Christ, fils de Dieu, fait homme. Bon, ce moment de l'incarnation. Donc, Kairos avec un K majuscule. Et puis, Krisis, le jugement, va aussi être promu, si je puis dire, et va devenir le jugement dernier. Le jugement dernier avec tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire l'Apocalypse qui précède et puis vient le Christ revient et c'est le moment du jugement définitif. Bon. Or, le temps chrétien, à mon avis, il s'inscrit entre ces deux bornes essentielles que sont l'incarnation qui est devenue la date pivot et Krisis, le jugement dernier. Et entre les deux, entre l'incarnation et le jugement, au fond, pour les chrétiens, pour les premiers chrétiens, il n'y a qu'un présent. Un temps qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de substance, qui n'a pas... au fond, il n'est pas important. Hein. Et il n'y a pas d'histoire dans les premiers temps du christianisme, si je puis dire. Et c'est pourquoi j'ai proposé de définir, parce que c'est une proposition, le temps chrétien, ce que j'appelle le régime chrétien d'historicité, comme un présentisme apocalyptique. Présentisme, bon, parce que oui, il n'y a que du présent, et apocalyptique, parce que l'horizon inévitable, inéluctable, nécessaire, c'est l'apocalypse. Apocalypse et jugement. Bon, alors, ça c'est le détour. Le détour qui a un triple, enfin, à mon avis, un triple intérêt, puisque, d'une part, ce cadre-là va façonner, va rester le cadre de l'Occident.
Durablement?
Jusqu'au XVIIIe siècle. Oui. Bon. Avec des aménagements, des reconsidérations, enfin bon, on n'a pas le temps de les évoquer, mais, donc c'est quand même pas rien. Et puis, ce cadre-là, compte tenu de l'action missionnaire de l'Église, compte tenu de la colonisation, il va aussi s'imposer bien au-delà du monde européen. Et il va falloir que, justement, dans toutes ces régions où les Européens se sont installés, ont colonisé, ce temps chrétien qui est donné comme le vrai, véritable temps, hein, va devoir s'imposer aussi aux autres temps locaux, régionaux, et vont sortir de ce qu'on a pu appeler des formations syncrétiques. Bon. Et enfin, ce temps chrétien, il m'intéresse particulièrement aujourd'hui, même si plus personne ne sait comment il s'est fabriqué, il m'intéresse particulièrement aujourd'hui parce que il avait comme caractéristique d'avoir ces deux bornes.
Donc l'incarnation et l'apocalypse.
Oui, apocalypse et jugement.
Et jugement.
Or, que signifiaient ces deux bornes? Pour saint Augustin, ça signifie que, avec l'incarnation, on est entré dans le début du temps de la fin. Non pas la fin du temps, mais le début du temps de la fin. Ou ce qu'il appelle aussi la vieillesse du monde. Bon, tout ce thème de la vieillesse du monde, très présent chez les chrétiens. Et, alors, l'apocalypse et le jugement, c'est la fin. La fin du temps. La fin des temps. Or, justement, vous avez ces deux bornes. Il faut bien comprendre que jusqu'au XVIIIe siècle, les gens ont vécu vraiment entre ces deux bornes. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, et j'en arrive à l'anthropocène que vous évoquiez au tout début de votre question, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est avec ce temps nouveau qui a surgi tout récemment, qui n'a rien à voir avec le temps chrétien directement, c'est-à-dire ce temps qui renvoie au temps de la Terre, c'est-à-dire un temps immense, un temps qui se compte en millions, sinon en milliards d'années, on a la réintroduction de bornes. L'idée que peut-être, justement, on va vers une fin, alors non pas du fin de du temps de la Terre, mais fin du temps du monde, de ce monde que nous avons construit, et de ce temps que nous avons construit, de ce temps moderne que nous avons élaboré. Et puis, si on introduit une fin, s'il y a la perspective d'une fin avec l'extinction, sixième extinction des espèces, enfin tout ce dont on parle actuellement, si on introduit cette fin possible, alors dans le même mouvement, vous introduisez un temps de la fin, un temps de la fin qui aurait commencé. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, depuis quelques années, nous avons toute une espèce d'agitation avec parfois explicitement des références, des renvois, des apocalyptiques. Donc, réfléchir sur ce temps chrétien peut nous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec, encore une fois, quelque chose que je ne mets pas du tout sur le même plan.
Alors, restons un peu sur ce temps chrétien, même beaucoup sur ce temps chrétien, François Hartog. C'est un présentisme qui se situe entre l'incarnation et le jugement dernier, l'apocalypse. Mais les chrétiens ont essayé quand même de le quantifier, enfin de lui donner une durée, 1000 ans, par exemple.
Oui, alors... Quand vous vous dites il n'y a que du présent, bon, et qu'au fond c'est la position de saint Paul, par exemple, si vous lisez les épîtres de saint Paul, bon, ce qui se passe n'a pas d'importance, bon, il n'y a pas, encore une fois, je dirais, il n'y a pas d'histoire, bon, tout ce qui compte c'est la conversion et tout ce qui compte c'est d'être prêt pour le jour où, bon, qui peut arriver d'un instant à l'autre, sans qu'on ait le droit de chercher à le calculer, puisque c'est l'affaire de Dieu et de lui seul.
Ah, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme,
oui,
un jour.
Voilà. Bon. Et donc ils sont... cela dit, justement, Chronos est quand même là. L'Apocalypse n'arrive pas. L'Empire romain est toujours là, des communautés se forment, il faut s'inscrire, il faut quand même s'inscrire dans le temps chronos. Et quand l'Église, quand le christianisme devient religion d'État, après Constantin l'empereur, eh bien, il faut bien transformer ce présent apocalyptique, enfin, il ne faut pas renoncer à ce présent apocalyptique, mais il faut quand même inscrire quelque chose qui ressemble à la construction d'une église, la construction d'un état, la vie de communauté, et on ne peut pas passer, même si c'est l'idéal monastique, on ne peut pas passer sa vie en prière.
Donc il fallait quand même un minimum de perspective, si j'ose dire.
Alors, les clercs, parce que c'est un travail qui a été fait par les clercs, entre, disons, le 4e, 5e siècle et le 12e ou le 13e siècle, ils ont mobilisé un certain nombre de concepts, que moi j'appelle des opérateurs temporels, qui permettent de faire une place à Chronos, mais une place subordonnée. C'est-à-dire qu'on garde le schéma, et puis, dans ces opérateurs essentiels, il y en a plusieurs, mais un qui est celui qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire la manière dont Dieu s'accommode de la faiblesse des hommes. Donc il leur parle leur langage, hein, il leur demande des choses qui sont à leur portée. Bon, c'est toute cette attitude-là. Et puis il répond à l'accommodation du côté des hommes, tout ce qui relève de la réforme. Bon, la réformatio en latin, la réforme a été un des concepts clés du monde de l'Église, bien avant Luther. Enfin, je veux dire, Luther, sur ce point, n'invente absolument rien. La réforme a toujours été à l'ordre du jour. Et la réforme, au sens premier, c'est de revenir à l'état initial. Bon, réformare, c'est ramener l'homme à cette situation initiale, l'homme créé à l'image de Dieu. Donc c'est format au sens de l'image, de la forme. Donc ça, ce sont des opérateurs alors qui ont une très longue histoire et qui deviennent de plus en plus temporalisés, au point que réforme est aussi un mot de notre vocabulaire, et Dieu sait qu'on l'emploie tout le temps. Réforme a été transformée, non plus du côté du passé, revenir vers quelque chose, voir un État qui n'a jamais existé véritablement, puisque c'est toutes les reconstructions, les inventions du passé, vers un autre sens, réforme tournée vers le futur, c'est-à-dire de créer une situation, un état des choses qui n'a jamais existé encore. Et la réforme devient prise dans le temps moderne, devient un objectif. Mais dans ce que moi j'appelle le régime moderne d'historicité. Donc on voit la plasticité de ces outils conceptuels que les clercs ont mis au point et qui sont restés à notre... Nous en servons sans plus savoir du tout comment ils ont été constitués.
D'ailleurs, vous analysez le travail de certains de ces clercs dans votre livre, François Hartog. Dans ce temps chrétien, les clercs ont été aussi obligés de tenir compte non seulement des prophéties, des écritures, mais aussi des événements qui surgissaient. Donc, oui. Il fallait à la fois tenir compte de ce qui était annoncé, mais de ce qui advenait.
Oui, mais ils avaient un moyen quand même très sûr, qui est ce type de lecture, puisque au fond c'est très philologique, leur rapport au monde, et parce que ça passe par le rapport aux écritures, bon, à l'écriture sacrée, à la Bible. C'est les lectures de type allégorique, c'est-à-dire vous pouvez voir dans tout ce qui est raconté dans la Bible une prophétie du Christ, c'est-à-dire annonce de la venue du Christ. Bon, ils se sont livrés à cœur joie à ce type de lecture, dont ils ne sont pas les inventeurs, mais ils en ont fait un grand usage. Mais vous pouvez faire ce même type de lecture pour des événements, hein, et essayer de voir en quoi ils sont des annonces de quelque chose.
Des signes de.
Des signes oui. De. Et si vous prenez alors des choses qui sont d'actualité comme les épidémies, eh bien, les épidémies, ce sont aussi des signes, mais alors là, depuis la Bible hébraïque, des signes de la colère divine, bon, du mécontentement de Dieu pour les fautes commises par ces humains absolument incorrigibles. Bon, et donc, le christianisme reprend tout à fait ça, et donc on cherche des moyens de de trouver comment réparer ces fautes. Et éventuellement, même très souvent, on cherche des coupables.
D'ailleurs, il en reste des traces de cette façon de penser, François Hartog. Vous parliez tout à l'heure du confinement, du Covid. Au printemps, je me souviens très bien de certaines réflexions sur ce virus signe de quelque chose.
Oui, oui, oui. Mais on a, ce qui est frappant, c'est que justement, face à ce virus qui nous est arrivé de manière imprévue, sinon imprévisible, on est complètement démunis. Et on voit justement à quel point on a très vite réactivé, au fond, des vieux schémas. Le confinement, c'est un très vieux schéma, puisque c'est quand on se protégeait des pestes, de la peste, on s'enfermait, on fermait les portes des villes, on se mettait chacun chez soi, on bougeait plus, bon, voilà. Et le signe aussi, alors justement, les pestes, on les interprétait souvent comme étant, ayant comme bouc émissaire les Juifs, là on n'a pas fait tout à fait la même chose, mais on est allé chercher soit ce brave pangolin,
mais oui, le pauvre,
qui pendant tout un temps a été bon, mais vous savez bien, quand on a imaginé des quantités d'autres, tous les complots s'en donnent à cœur joie et continuent à s'en donner à cœur joie. Bon, ça relève de ce même type.
Oui, il y avait un petit goût de fin du monde aussi,
d'une certaine manière, avec ces
prévisions disant oui, cette peste, c'est le résultat, je sais pas, de la dégradation de l'environnement,
de la biodiversité,
etc. Donc c'est une sorte d'avertissement.
Oui, alors sauf que là, c'est pas Dieu qui envoie l'avertissement, puisque on dit non, ça, il n'est plus là. Mais justement, c'est la nature, ou c'est et par conséquent, c'est notre faute. Donc la faute est nôtre. C'est notre faute. Alors après, on cherche des culpabilités on cherche à aller plus précisément. Donc c'est notre faute, oui, mais c'est la faute plutôt de celui-ci, plutôt de cela, jusqu'à aller chercher justement toutes ces actions judiciaires qui ont été engagées dans les semaines qui ont suivi le début de l'épidémie. Ça relève de cette même de ce même comportement, de cette même logique.
Alors revenons à cette périodicité, à ce temps chrétien entre la réincarnation et le jugement dernier, François Hartog. Ce régime est remis en question à partir du XVIIe, XVIIIe siècle avec le progrès. C'est ce que vous notez, vous, pour reparler de lui, c'est alors le triomphe de Chronos.
Oui.
Pourquoi ?
Si on voit ça comme une espèce de grand combat, vous avez Chronos, Kairos, Crisis. Peu à peu, avec les premiers chrétiens et tout le Moyen-Âge, Chronos est réduit, encadré, sinon enchaîné. Bon. Et puis Chronos, peu à peu, prend le dessus, se libère, et va finir par régner. Ce que j'ai appelé l'Empire de Chronos, qui correspond au monde moderne, au temps moderne, entre 18e, 19e et une grande partie du 20e.
C'est d'ailleurs le temps libéré.
Oui, c'est un temps, justement. Alors, où les bornes disparaissent.
Oui, oui.
Bon, si on garde cette idée que j'ai évoquée des bornes, qu'est-ce que c'est que le temps moderne ? Alors, c'est beaucoup de choses. C'est ce temps du progrès, en effet, des progrès de la science. Mais c'est un temps qui se libère des bornes. Alors, une borne qui était celle liée à la chronologie biblique. Bon, chronologie biblique voulait dire 6000 ans. Le monde a 6000 ans. Donc il y a eu des moments, quand on s'approchait, il fallait trouver des moyens de retarder, rajeunir le monde, ou enfin trouver des astuces, et les chronographes sont tout à fait à même, ont été tout à fait à même de faire ça. Mais le moment où vraiment on sort de ce cadre ou de ce carcan, c'est avec Buffon.
Oui, vous citez Buffon, les travaux de Condorcet aussi, oui, dans d'autres domaines, et Darwin.
Et Darwin. Donc on peut mettre ces trois noms, il y en aurait bien d'autres. Mais je me suis arrêté sur ces trois-là, parce que Buffon, c'est l'âge de la Terre, qui nous sort de façon absolument immense, incommensurable, des 6000 ans, en disant non, c'est pas possible, c'est pas ça, en ayant fait des expériences pour voir combien de temps il a fallu pour que la Terre se refroidisse, pour que la vie puisse apparaître sur la Terre, etc. Donc il fait tout ça, donc la borne en amont, si vous voulez, disparaît. Et puis la borne en aval, du côté de l'avenir, on peut dire que Condorcet y travaille ardemment, puisque son écrit le plus célèbre, c'est l'esquisse historique des progrès de l'esprit humain. Mais qui a établi que ces progrès de l'esprit humain sont indéfinis. Donc il dit pas que c'est infini, il dit que c'est indéfini. Bon, il est mathématicien, il sait ce qu'il raconte. Donc là, vous n'avez plus de borne du côté du futur. Bon, il y a la perspective de progrès indéfini. D'accord. Et puis Darwin, lui, au fond, il remplit l'intervalle avec la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un moment, une création unique à un moment donné, ou alors une création continuée. Non, vous avez l'évolution qui permet d'expliquer le passage d'une espèce de transformation à une autre.
Oui, et vous expliquez que cette époque, c'est évidemment l'époque du progrès, puisqu'il y a le futur, tout est possible.
Oui.
La technique au 19e siècle le permettant. Et vous dites aussi, mais c'est peut-être l'historien qui parle, vous dites aussi que c'est le triomphe en quelque sorte de l'histoire.
Oui.
Pour quelle raison ?
Ben parce que on passe, si vous voulez, d'une histoire avec un petit h ou des histoires au pluriel. Vous aviez des histoires, l'histoire de ceci, l'histoire de cela, l'histoire de la Prusse, l'histoire de la France, l'histoire de l'Espagne, l'histoire... Bon, vous aviez des histoires, et puis tout d'un coup, on dit non, c'est pas comme ça, il y a l'histoire, avec un H majuscule, conçue justement comme processus. Cette histoire conçue comme processus, elle, évidemment, elle est portée, supportée, par un temps lui-même conçu comme progrès, comme marche. Et comme, justement, Chronos, à ce moment-là, je disais au tout début que Chronos, pour les chrétiens, n'avait pas de substance. Bon, là, avec le temps moderne, Chronos devient un acteur de plein exercice. Le temps lui-même devient acteur. C'est pas quelque chose de vide. Bon, ce temps acteur et cette forme qu'il prend, qu'on appelle l'histoire, alors ça marche ensemble, et c'est toute cette thématique mode de particulièrement du 19e siècle, et encore plus particulièrement du marxisme, selon laquelle, eh bien justement, l'histoire devient de la divinité. Et d'où cette utilisation aussi de l'histoire comme substitut du jugement dernier.
L'histoire qui crée des périodes également. L'histoire qui découpe le temps, en quelque sorte.
Oui, l'histoire découpe le temps. Ce sont les historiens qui le font. Mais l'histoire fournit la clé d'intelligibilité du monde. C'est le grand moment du 19e. Et en elle, on trouve les explications, on trouve aussi un jugement, puisque ce que j'évoquais, c'est toute cette thématique du tribunal de l'histoire, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup employée au cours du 19e siècle, depuis Hegel, en passant par Marx et bien d'autres. Donc le tribunal de l'histoire. Et puis, l'histoire est aussi ce qui... justifie les vainqueurs. Alors là, on peut avoir les usages de type fasciste de l'histoire. Donc, elle devient le réceptacle, comme ça, et de tout cet ensemble. et on peut s'établir une espèce de religion, religion laïque de l'histoire, qui vient se substituer à une ancienne religion qui elle-même a perdu son emprise sur le monde, et parce que précisément Chronos s'est imposé et que le cadre chrétien n'est plus opératoire.
Alors que le temps des chrétiens a continué à courir, parce que oui. Ce temps des chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont divisé les journées, qui ont créé des repères dans le temps qui passe chaque jour. Je ne parle même pas des règles monastiques, mais le temps de l'Occident est encore un temps hérité des chrétiens.
Oui, donc ce découpage du temps, qui est quand même une opération tout à fait importante. Si on suit comment s'est constitué le calendrier chrétien, calendrier qui est un calendrier liturgique en fonction des différentes fêtes, et comment on couple ce calendrier liturgique avec un calendrier aussi des saisons. L'automne, le printemps, l'été, etc., correspondent à la distribution comme ça de l'année liturgique. Puisque le Noël correspond en gros au solstice d'hiver, bon. Et puis Pâques au solstice de printemps, grosso modo, l'équinoxe, je veux dire. On voit bien comment les chrétiens ont produit une espèce de grande synchronisation de tous les temps qui existaient en les fondant sur la vie du Christ. Bon, alors ce temps-là. Il est toujours actif, mais même si nous n'en avons plus, enfin du moins en Occident, nous n'avons plus vraiment conscience, même si ça demeure quand même une des références principales de notre vie quotidienne dans les sociétés. Et alors, ça montre bien la force de ce cadre qui s'est créé il a fallu presque 7, 8, 9 siècles pour créer tout cet ensemble. C'est pas fait comme ça en 3 minutes, ils n'ont pas fabriqué leur calendrier en 3 minutes.
Vous expliquez très bien dans votre livre les différentes étapes. C'est ajustement, ces différentes couches.
Ça a donné lieu à beaucoup de controverses, beaucoup de réflexions, etc. Mais il est toujours présent, sans que nous sachions vraiment pourquoi, et alors nous l'avons transformé en fête de la consommation, mais on voit bien aussi, par exemple, aujourd'hui, les églises sont ouvertes, mais pas les salles de spectacle. Bon, voilà, ça signifie aussi quelque chose. Je ne sais pas s'il fallait ou pas, ça c'est un autre problème, mais le fait que ce soit ce choix-là qui a été fait n'est pas complètement indifférent.
Chronos libéré donc au temps moderne, 18e siècle, 17e siècle, etc., est à nouveau aujourd'hui entravé en quelque sorte.
Oui.
Donc depuis quand? Depuis le 20e siècle.
Oui, c'est justement
ce que vous expliquez dans le livre, très précisément. Les guerres, Hiroshima, cette perspective de fin, en quelque sorte.
Oui.
Possible.
Et
aujourd'hui, l'Anthropocène.
Voilà. Ce temps moderne, il s'est déployé, il a été conquérant, il a voulu conquérir le monde aussi, et puis il s'est trouvé lui-même mis en question par ce que les Européens ont fait, c'est-à-dire les guerres mondiales, et que le temps moderne, ce temps porté par le progrès, qui parier sur des progrès de l'humanité, pas seulement les progrès techniques, c'était vraiment les progrès de l'humanité, l'humanité telle que la célébrait Auguste Comte ou Ernest Renan. Après l'extermination des Juifs, il est difficile de penser qu'il y a un progrès de l'humanité, et je pense que le temps moderne ne s'en est pas remis. Il a mis du temps à en prendre conscience, mais il ne s'en est pas remis. Et puis, Hiroshima est une autre remise en cause qui n'a pas été perçue tout de suite non plus, puisqu'on l'a d'abord plutôt perçue comme une potentialité technique, un progrès technique, ce qui est quand même assez étonnant en 45-46. Bon, et ensuite, alors, ce temps moderne, il a continué à galoper avec tous les progrès de la technologie, mais c'est ce que j'évoquais en commençant, avec cette perte de force d'entraînement du futur. Et ça, c'est pour nous, dans nos sociétés de l'Europe de l'Ouest, c'était plutôt dans les fins des années 60, autour du milieu des années 70, par là.
Du 20e siècle.
Du 20e siècle, oui, pardon, 1970, où c'est peu à peu infiltré, répandu, l'idée que le futur n'allait pas être meilleur que le présent. Ou que nos enfants n'auraient pas nécessairement des conditions de vie meilleures que celles de leurs parents, alors que ça a été la base de l'expérience quotidienne des gens dans l'après-guerre, puisqu'ils ont parti de tellement loin que ça ne pouvait être que cette progression des classes moyennes. Et puis là, on commence à douter, d'où ce que j'évoquais, c'est-à-dire que le présent semble prendre la place avec cette espèce de repli, en effet, de célébration du présent, mais de repli aussi sur le présent.
Et on attend Godot, en quelque sorte.
Et on attend
Godot. Vous citez un dialogue de Samuel Beckett, de cette pièce. Pour quelle raison?
Parce que...
Entre Vladimir et Estragon, qui attendent Godot, justement.
Oui, qui attendent Godot. Et il me semble, alors eux, ils se situent justement, après la guerre, il témoigne très clairement d'un temps qui est complètement désarticulé, d'un temps alors évidemment il n'y a pas question de progrès, il n'est pas question de mais même d'un temps qui n'a pas de
un temps immobile en quelque sorte pour
reprendre
le mot.
C'est une espèce de, ils sont dans une espèce de présent. Et alors ils attendent Godot, mais évidemment Godot vient pas. Et ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On pourrait se pendre peut-être. On pourrait se pendre. Ah oui, mais si Godot vient, je trouve que Beckett est un excellent sismographe, si vous voulez, de ces doutes, de cette plus que de ces doutes, de ce temps qui s'est désarticulé. Voilà.
Alors il y avait cet horizon bouché. Aujourd'hui, cet horizon inquiète à nouveau. Oui. On y revient.
Voilà. C'est-à-dire que le présentisme, c'est une espèce de bulle. Hein, et au fond, on ne voyait pas au-delà du jour. Bon. Et puis, tout d'un coup, et on pensait que nos instruments technologiques nous permettaient de nous débrouiller parfaitement dans ce monde réduit à l'instantanéité des communications. Et où l'instantanéité des ordinateurs qui pouvaient faire tourner les marchés financiers. Et là, avec ce que nous avons évoqué brièvement tout à l'heure, en commençant, avec l'anthropocène, ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire justement ce temps qui surgit devant nous et qui... C'est un futur immense. C'est là où nous sommes particulièrement mal armés, si vous voulez, pour y faire face. Parce que nous, le futur, c'était, demain matin, demain après-midi à la rigueur, mais pas au-delà. Et tout d'un coup, vous avez un futur qui est là, qui se compte en millions d'années. Et, difficulté supplémentaire, alors ce futur, il n'est pas encore là, mais il est déjà là d'une certaine manière. Puisque les climatologues nous ont montré que ce que nous avons fait d'ores et déjà, depuis, disons, la révolution industrielle, ce que nous avons fait a modifié le climat pour les 100 000 ans à venir. Donc, quoi que nous fassions, c'est donc un futur qui n'est pas encore là, qui peut être à 100 000 ans, bon, c'est irreprésentable pour nous autres, avec nos cervelles limitées, 100 000 ans, et pourtant c'est déjà une en partie jouée. Donc c'est des problèmes de cognition que l'humanité n'a jamais rencontré. Je crois qu'elle n'a jamais eu à faire face à ce type de situation, et on voit bien que elle ne sait pas, et que l'intelligence artificielle n'est pas la réponse à ce type de question, ou pas, qu'on va pas s'en remettre. Alors si, ceux qui pensent, les transhumanistes, qui eux pensent que le meilleur moyen, c'est de coupler le cerveau avec une machine et que, de ce point de vue-là, on atteindra enfin l'immortalité.
Et le temps continuera quand même, effectivement, à filer et là, nous serons immortels, donc il n'y aura plus de problème. Mais peut-être que la Terre en aura des problèmes. François Hartog, ce qui veut dire que aujourd'hui, il y a deux logiques à l'œuvre. Il y a la logique d'un système économique, politique, qui était conçu pour vivre au présent, pour concevoir le présent, et ce temps, cette perspective inquiétante qui fait que certains s'inquiètent et voudraient changer les choses, et ils sont pour l'instant pas vraiment entendus.
Alors, c'est difficile à dire, parce que il y a cette tendance, alors de la part d'un certain nombre de gens, de dénoncer l'inaction.
Parce que cette perspective du futur inquiète aujourd'hui.
Oui. De dénoncer l'inaction, en disant c'est l'inaction. Mais je pense que ces personnes, groupes qui sont sur cette position, sont eux-mêmes encore pris dans une certaine forme de présentisme, puisqu'ils s'imaginent, ils croient que, on peut du jour au lendemain, précisément, transformer ce qui s'est construit sur plusieurs siècles. Et qu'il suffirait de dire « nous voulons que ». Bon, ben, précisément, il semble pas que ça marche qu'ainsi. Et on le voit très bien, peut-être, avec ces difficultés entre la Convention citoyenne pour le climat.
C'est-à-dire voir à long terme
C'est-à-dire dire, voilà, il faut prendre ces mesures, et puis... Le président de la République, il dit de son côté, mais il faut faire des choses qui soient acceptables par les Français. Bon, alors on dira, oui, bien sûr, c'est une fois de plus pour ne rien faire, mais je crois que très profondément, il y a ces deux logiques, en effet, il y a ces temporalités qui sont incommensurables et probablement, de ce fait, extrêmement difficiles à articuler les unes aux autres. Mmh. Parce que le temps du monde que nous avons élaboré, et le temps de la Terre n'ont aucune... c'est pas les mêmes échelles. Or, on peut pas abandonner le temps du monde avec tous les milliards de gens qui sont là et dont certains sont dans la misère la plus noire, mais beaucoup même, et de dire que on va ne s'occuper que du temps de la Terre. Alors, comment les mettre en situation de friction, si je puis dire, mais de friction positive? C'est probablement, à mon avis, tout le problème des années qui viennent.
Et donc on revient à crise, à la crise en quelque sorte.
Oui, alors effectivement. Donc, mais on peut soit voir ça crisis comme au sens grec, c'est-à-dire une crise qu'on peut traduire en termes chronologiques, justement, qu'on peut inscrire dans une chronologie, ou bien c'est la position des collapsologues et autres apocalypticiens, dire c'est la crise finale. C'est-à-dire la fin. Mais eux sont des apocalypticiens, mais uniquement négatifs. L'apocalypse chrétienne n'est pas négative. C'est un moment pénible, mais ouais. Commence pour arriver à toute autre chose. Tandis que les apocalypticiens d'aujourd'hui, c'est nous dire c'est la fin.
Merci François Hartog. Votre essai que je recommande, comme tous les livres que vous avez écrits, s'intitule « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps ». Il est publié aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires. Merci.
Merci à vous.
Idée, un magazine réalisé évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. RFI.